With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis le 1er janvier 2020, la lutte contre les sectes a changé en France. L'organisme traditionnellement chargé de la surveillance de ces dérives, la Miviludes, a cessé d'exister et ses services ont migré de Matignon au ministère de l'Intérieur, fusionné dans le comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Une décision qui a suscité pas mal d'inquiétudes dans la société civile, on l'avait d'ailleurs évoqué dans un épisode. Des inquiétudes d'autant plus vives que les sectes restent un sujet d'actualité. La preuve, avec une histoire toute récente qui a retenu notre attention, l'ouverture d'une enquête pour assassinat en Belgique visant un groupuscule basé en France après la mort suspecte d'une de leurs membres en 2011. Baptisé la Nation Libre, il est aussi connu pour abriter en son sein un groupe de musique chouchou de l'extrême droite, les Brigandes. Alors que s'est-il passé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée pour en parler, c'est ma consoeur Nolwenn Le Blévenec de l'Obs. Elle suit ce dossier de très près depuis des années. C'est elle qui a révélé la première l'ouverture de l'enquête en Belgique. J'ai commencé par lui demander de me raconter qui sont les Brigandes.
Alors les Brigandes, c'est plusieurs femmes, je dirais une dizaine de femmes, qui se baladent dans des paysages montagnards, avec des vêtements fluides, souvent en blanc, et qui chantent des chansons sur le grand remplacement, sur la France qui se perd, sur la pourriture du système politique, et qui très très vite est acclamée par l'extrême droite française, qui se partage des vidéos de plus en plus. En 2015, il y a un journaliste de Technicart qui va les rencontrer pour la première fois. Au départ, on pense que c'est juste un groupe musical, il y a juste ces images qui sont certes un peu bizarres, mais bon, pourquoi pas. Et puis lui va passer, c'est le premier journaliste à aller les voir, il passe 24 heures avec eux, et puis il en revient avec l'impression qu'il plane quelque part, quoi, qu'il se passe quelque chose de bizarre, qu'il faut une sorte de mai 68 à l'envers. Il voit bien qu'il y a un personnage qui est un peu central, qui est grand seigneur en peignoir, qui en fout pas une dans la maison. Mais il va pas jusqu'à dire que c'est un groupe sectaire, je sais pas pourquoi. Il constate juste que c'est une communauté un peu étrange. Et alors là, ça suscite à ce moment-là la curiosité de plusieurs journalistes, notamment celui de Rivarol.
Qui est un journal d'extrême droite, qui lui s'intéresse à, on va dire, le côté, va se poser la question de la pureté, la pureté idéologique d'extrême droite des Brigandes, pas exactement le même questionnement.
Voilà, alors je ne sais plus exactement comment Jérôme Bourbon prend contact avec Annick Levinfos, qui est une ancienne de la secte, qui est une repentie, et qui décrit très très bien ce qui se passe à l'intérieur, et des choses qui sont difficilement vérifiables, des messes noires, des pièces, moi, qui ne m'ont pas été montrées, et donc il y a ce papier de Rivarol qui, après le papier de Technicart, prend le contre-pied et qui dit ce qui s'y passe est vraiment, vraiment très, très bizarre. Moi, j'avais déjà commencé à insister pour venir après le papier de Technicart. Et au moment de celui de Rivarol, je continue d'insister pour venir. Et comme j'insiste suffisamment, ils acceptent de me recevoir 2 jours en septembre 2016.
Et alors, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu découvres là-bas? Déjà, c'est où?
C'est pas très loin de Béziers, de la Montagne Noire, c'est à la Salvetat-sur-Agout, c'est à l'intérieur donc d'un village, il y a un bâtiment principal, qui est un grand bâtiment en béton vert, et puis il y a plein de petits îlots, tout le monde n'habite pas dans le bâtiment principal, je pense qu'il y a une histoire de hiérarchie, mais voilà, c'est ce que j'ai compris. Certains sont éloignés, d'autres rapprochés, de Joël Labruyère qui habite dans le bâtiment central. Donc je vois un groupe très sympathique, mais donc tout est bizarre. Alors moi j'observe le bizarre sans savoir ce que c'est, puisque bien sûr moi on me prend pour comme un dîner de cons, quoi. Ils sont là pour s'amuser avec moi, donc pour pas me dire ce qui se passe, pour me dissimuler des choses. Donc moi ce que je constate c'est juste ce qu'ils n'arrivent pas à dissimuler parce que l'organisation fait que c'est pas possible de le dissimuler parce que c'est trop important pour eux peut-être. Et donc, je constate que les femmes sont toutes dans la cuisine, c'est les hommes qui me reçoivent, que c'est toujours la même personne qui est à la droite de Joël Labruyère dans les repas, que c'est toujours la même qui se fait humilier, que des thèmes de conversation reviennent en permanence, comme le suicide du Temple de l'Ordre solaire. Joël Labruyère parle beaucoup du 11 septembre, des juifs, de la franc-maçonnerie, enfin, espèce de thème récurrent comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il les aborde 15 fois par jour, quoi. Voilà, je constate aussi que c'est lui qui prend la parole la plupart du temps. Hein. C'est comme, on dit souvent que dans les sectes, le gourou a une voix, quoi. C'est une voix qui doit être en continu comme ça pour maintenir la voix des autres, quoi. C'est-à-dire que c'est la voix d'une seule personne qui recouvre toutes celles des autres. Mmh. Et donc, Joël Labruyère, il parle tout le temps, en fait.
Et votre idéologie, elle repose sur quoi, le principe ?
Le principe de la vie, de l'art, de la beauté, de la liberté. La liberté pour des gens de se réorganiser dans des sociétés parallèles, en dehors du système. Et vous savez, il faut en avoir une sacrée paire pour confronter le système comme je le fais, non ?
C'est qui Joël Labruyère, du coup, ce leader, le gourou de ce groupe, qui alors, donc, ce groupe, il a un nom, parce que c'est Les Brigandes, c'est le nom du groupe musical, mais à l'époque où toi, tu vas les rencontrer, parce qu'ils changent de nom, si en plus, régulièrement, ils s'appellent La Nation Libre.
Ouais. Alors Joël Labruyère, il m'a pas dit grand-chose sur sa vie d'avant. Il dit qu'il a été restaurateur, qu'il a toujours bossé dans la libre entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il s'est passionné pour les sectes. Il a considéré qu'il y avait une chasse aux sectes en France et il s'est mis à faire du lobby pro-secte. On l'a vu notamment sur des plateaux télé défendre les organisations sectaires. Et puis, dit-il, un jour, il décide de se lancer dans la formation de son propre groupe. Et il lance des conférences par-ci, par-là, avec une sorte de mélange entre toutes ces obsessions. Mais voilà, ça va du royaume elfique, de la déesse Freya, en passant par la franc-maçonnerie, espèce de mélange de... pas très clair, quoi, en tout cas pour moi, de l'extérieur, et avec un corpus, quoi, de valeurs, de pensées. L'idée, c'est que la France se meure, les valeurs sont des valeurs identitaires. Ils disent que pour eux, le plus menaçant, c'est les États-Unis, hein, c'est l'uniformisation, c'est pas l'islam, même si l'islam reste aussi une des grandes menaces, selon eux. C'est l'homme qui porte ce discours-là et qui... Et par ailleurs, un homme effectivement très charismatique. Annick Levinfos m'avait dit, donc l'ancienne de la secte, La Repentie, m'avait dit, vous allez voir, vous allez vouloir vous faire aimer tout de suite. Il est très grand, il a de l'humour, il est énormément dans la séduction. Et je pense que effectivement, tous les membres du groupe cherchent à avoir son approbation. Il est très charismatique.
De quoi il vit ce groupe ?
Alors, ils mettent l'argent en commun qu'ils ont. Certains travaillent. Il y a aussi le groupe Ultra Sixties, qui a une émanation du groupe. Donc, il y a Les Brigandes, qui fait son répertoire d'extrême droite, et il y a Ultra Sixties, qui fait vraiment des grands classiques du genre Harley Davidson, Brigitte Bardot et compagnie. Et ça, ils font des petits concerts dans la région, ça plaît vachement aux vieux, notamment. Et donc, ils se font un peu d'argent avec ça. Et puis, j'imagine la vente de brochures, la vente de CD des Brigandes, des héritages. Ils sont pas dans la consommation, hein. Donc je pense qu'ils dépensent pas beaucoup d'argent. Ouais, je pense que c'est ça.
Toi, tu vas passer plusieurs jours avec eux en 2016. Tu en ressors avec quelle impression ?
D'abord d'avoir été jouée, prise pour une idiote. J'ai l'impression d'avoir capté le dixième des choses qui se passe réellement dans cette communauté, notamment ces histoires de couples, hein, c'est-à-dire que Joël Labruyère déferait et ferait des couples en fonction de ses fantasmes du moment. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte que plusieurs membres de la secte ont été avec plusieurs autres membres de la secte, on ne comprend pas bien ce qui se passe. J'ai l'impression d'être tombée sur des gens plutôt sympathiques. Je repars aussi avec une petite angoisse, une petite inquiétude sur les enfants que je n'ai pas beaucoup vus. Alors, je suis restée que 2 jours et j'en sais rien. Mais c'est vrai que... Ils ont toujours été mis à l'écart.
Parce qu'il y a plusieurs enfants en fait, qui vivent avec eux.
Ouais, il y a une dizaine d'enfants et je les ai jamais vus. Quoi, hein. Je les ai vus au loin, mais alors du coup, je me suis demandé s'ils circulaient librement. Mais j'en ressors aussi avec l'impression d'avoir passé un bon moment. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait à manger, alors ils m'ont servi du coca, j'ai eu des discussions sur la presse, sur eux, sur l'extrême droite. J'ai écouté de la musique dans la voiture en rentrant, du reportage avec deux d'entre eux et on s'est marré. Enfin, voilà, je rentre en me disant... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et je fais un premier papier qui raconte ces deux jours dans ce groupe. Je ne les décris pas comme des monstres, je les décris juste comme des gens bizarres.
Là où tout ça va prendre une tournure un peu plus sombre, voire beaucoup plus sombre, c'est deux ans plus tard, quand la famille d'une ancienne adepte, qui est décédée en 2011, te contacte.
Oui, c'est en début d'année 2018, je reçois un appel de la sœur d'une membre décédée. Elle a lu ce papier sur les deux jours chez les brigands. Sa sœur est décédée en 2011 dans des conditions qu'elle juge très bizarres et obscures. Et tout d'un coup, elle a envie d'en parler avec moi parce que je les ai fréquentées. Et puis, elle me raconte son histoire et on prend rendez-vous à Bruxelles. Et je la rencontre avec sa petite sœur. Et elle me montre un dossier avec les dernières volontés de leur sœur qui s'appelle « Soirée dans la secte ». Et elle me raconte toute l'histoire et comment leur sœur... une fois qu'elle a intégré ce groupe, a complètement changé, s'est mise à créer une énorme distance avec ses enfants, s'est mise à tenir des propos complotistes sur le 11 septembre. Enfin, elle me raconte que leur sœur est devenue méconnaissable. Et puis surtout, elle me raconte les conditions obscures du décès.
Qui c'était cette femme, Suarez ? Elle avait 39 ans quand elle est décédée.
Selon ses sœurs, c'était une femme qui avait beaucoup de personnalité, qui était très entière. Mais alors du coup, ça se manifestait au sein du groupe comme vraiment... on la considérait comme complètement fanatique. Et c'était une femme qui, visiblement, se lançait avec passion dans des projets qui n'aboutissaient pas. C'était une femme qui élevait ses enfants, qui les aimait énormément, mais qui s'était éloignée, qui avait voulu les faire grandir au bord de la mer et qui avait certainement ressenti à ce moment-là une grande solitude. Et donc, c'est une femme qui, un jour, assiste à une conférence de Joël Labruyère en Belgique et qui décide à ce moment-là de rejoindre la communauté qui habitait en Normandie à l'époque.
Elle va tomber malade ?
Elle a un cancer de l'utérus. C'est difficile de savoir quand les douleurs ont commencé, en fait, puisqu'elle avait une maladie des intestins. D'anciens membres me disent qu'elle a commencé à se plaindre du cancer, de douleurs, en janvier 2011. Elle est décédée en octobre 2011. Est-ce qu'à l'époque, ces douleurs-là étaient confondues avec sa maladie initiale ? Est-ce qu'elle savait déjà qu'il y avait un problème et elle n'a pas voulu aller se faire dépister ? C'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'été 2011, un diagnostic est posé, qu'elle a une tumeur au col de l'utérus avec un envahissement local, qu'une opération est programmée fin août. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Elle décide de renoncer aux soins, à l'opération, à la chimiothérapie et de se laisser mourir.
Est-ce qu'on sait si la communauté, le groupe sectaire auquel elle appartient, a joué un rôle dans cette décision de ne pas se soigner ?
Alors ça, c'est l'enquête qui a été ouverte qui le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que Annie Clovin-Fos, qui est une ancienne adepte de la secte, elle décrit un rôle très important dans le choix de Soirée de se laisser mourir. Pour Annie Clovin-Fos, le groupe ne tolère pas... les soins médicaux, bon, ça m'a été confirmé par un ancien membre qui m'a dit qu'effectivement aucune transfusion sanguine, aucune interaction avec la médecine. Sur le cancer, il y a même une brochure qui fait référence, qui dit que le cancer est lié à des rayons interscopiques. Pour ce groupe, le cancer, c'est quelque chose qui est lié à son histoire, contre lequel on ne peut rien faire. C'est pas une maladie organique sur laquelle on peut agir. Voilà, après, Annie Clovin-Fos dit que c'est Joël Labruyère qui a décidé et qu'il lui a proposé de se lancer dans un jeûne mortel de 40 jours qui a duré un peu plus de temps. C'est ce que raconte Annie Clovin-Fos.
Avant de décéder, elle va se marier, Soirée, avec un autre adepte, et puis elle va aller s'installer en Belgique.
Quand décision aurait été prise que Soirée décède à la suite d'un jeûne mortel. Tout se met en place, une organisation se met en place et la première chose à faire, c'est de la marier pour notamment que la secte puisse prendre en charge toutes les démarches administratives. Et donc, elle va se marier avec un homme qui s'appelle Alexis, qui est un ancien membre, un ancien amant. Et donc, ils organisent un mariage. Et puis, une semaine plus tard, elle va dire au revoir à sa famille, à la mère. Elle est déjà en train de jeûner, hein, elle boit uniquement. Et puis ensuite, elle va s'installer effectivement dans un lieu, qui est une cabane, que le groupe appelle La Planque, qui est un endroit qui est investi énormément par les fantasmes de ce groupe, qui voit un lieu un peu magique. Ils disent qu'en contrebas de cette cabane coule une source d'eau qui est celle de la déesse Freya. Et donc, il se passe pas mal de trucs dans cette cabane. Il y a des nuits de noces, il y a des accouchements, tout ce qui doit être de se passer à l'écart de la maison, dans des conditions un peu secrètes, se passe là. C'est sur les hauteurs de Dinan. C'est un endroit un peu, moi je le trouvais un peu louche. C'est bizarre de penser qu'ils investissent cet endroit comme un endroit magique. Ce sont des petits îlots de cabanons au milieu de petits bois sans envergure, quoi. Et donc c'est là qu'elle va s'installer pour mourir.
Elle va décéder, on l'a dit, le 18 octobre 2011. Les conditions de son décès, c'est ça qui fait l'objet aujourd'hui d'une enquête, parce qu'elles sont extrêmement troubles.
La date de la mort qui va être donnée à la famille, ce sera le samedi 22, alors qu'elle est décédée le mardi 18. Et donc ça a été un gros choc pour la famille. C'est-à-dire qu'en fait, on les a appelés le samedi 22 octobre pour leur dire que Soiry était décédée. Le dimanche, il y a eu une fête dans le jardin, ils ont sorti les guitares, etc. Et le jour d'après, les obsèques. C'est quelques jours plus tard que Florence, la sœur de Soiry, se rend compte qu'en réalité, elle est décédée le mardi 18. Et alors là, c'est un énorme choc pour elle. Je crois qu'elle se met à crier parce qu'en fait, elle réalise que des messages ont été envoyés du portable de sa sœur par des membres du groupe qui se sont fait passer pour elle. Elle réalise qu'on leur a menti, qu'on les a manipulés. Son grand frère est passé voir sa sœur à un moment et on lui a répondu qu'elle était en promenade, qu'elle était allée se balader. En réalité, elle devait être à l'intérieur de la cabane morte. Voilà, donc c'est un énorme choc et c'est de là que part l'envie de Florence de mettre au clair les conditions de ce décès, comment ça s'est terminé pour elle.
Et justement, là-dessus, il y a des zones d'ombre. On parle même du fait que des membres de la secte l'auraient aidé à mourir, voire l'auraient assassiné, tout simplement.
Là encore, c'est Annick Levin-Fausse, hein, l'ancienne adepte repentie, qui raconte ça, qui dit qu'elle était, avec le groupe à ce moment-là, et Joël Labruyère, qu'elle les a vus sortir de la pièce, elle jouait au piano, et qu'à ce moment-là, la décision a été prise d'abréger les souffrances de Soiry. Elle devait souffrir, ne mangeait plus, elle avait des antidouleurs, mais c'est quand même assez faible, elle n'était pas du tout médicalisée. Et donc, l'enquête va aussi essayer de déterminer ce qui s'est passé dans ce cabanon avec ces quatre femmes qui veillaient Soiry. Est-ce que, effectivement, comme le raconte Annick Levin-Fausse, deux d'entre elles sont venues l'aider à partir. C'est l'enquête aussi qui déterminera ce qui s'est passé. Après, sur les quatre femmes, il y en a une qui est encore dans la secte, une qui l'a quittée, qui a disparu de la circulation, une autre qui est décédée. La quatrième aussi a un peu disparu. On ne sait pas si elle est revenue dans la secte ou elle est. Mais en tout cas, quatre femmes peuvent raconter ce dernier instant.
Quelle était la réaction du groupe, qui est désormais, donc on l'a dit, installé dans le sud de la France, à l'annonce de l'ouverture de cette enquête ?
Un des trucs que je constate, c'est qu'ils vivent de fantasmes, hein, et notamment de ceux de Joël Labruyère. C'est comme si les fantasmes de Joël Labruyère se répercutaient sur tout le monde. Et donc, autour de ma personne, ça se concentre beaucoup sur la sexualité. À la publication de la première enquête en mars 2018, j'avais reçu une petite culotte à mon travail, avec écrit « Quand je pense aux brigandes, je... » trois petits points. J'avais déposé une main courante. J'ai reçu plusieurs mails depuis qui parlaient de choses liées à ma sexualité. Et là, à la publication de l'article qui mentionne l'ouverture d'une enquête en Belgique, j'ai reçu une nouvelle vidéo de 20 minutes qui tourne à nouveau autour de mon hystérie, de ma névrose, de mon envie de sexe facile, voilà, des propos diffamatoires, insultants. Dans une autre vidéo, c'était plus menaçant. Il y avait un gant de boxe, un ruisseau qui évoquait l'affaire du petit Grégory. Donc c'était double menace comme ça. Une menace, on va te casser la gueule. Et puis une autre, de toute façon, t'es qu'une hystérique et conduite. Voilà, c'est leur vision des femmes, visiblement.
C'est pas la première fois qu'ils sont inquiétés par la justice. Il y a d'autres plaintes qui ont été déposées.
C'est un groupe qui est parti quand la secte habitait dans les Pyrénées. Il y a eu un soir une explosion, une dispute. Alors, est-ce que les membres voulaient partir avant ou est-ce que la dispute est liée au fait qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient partir? Bref, il y a en tout cas une course-poursuite dans les rues et ces membres se sont échappés. Et en fait, à ce moment-là, des menaces ont été proférées et ces membres échappés sont allés porter plainte. Une instruction a été ouverte pour abus de faiblesse, pour travail dissimulé. Pour le moment, le dossier végète depuis plusieurs années. Voilà, le parquet de Tarbes répond que c'est en cours, mais ça n'a pas l'air d'avancer très très vite.
Là où ils sont installés, à la Salvetat sur Ringoux, ils bénéficient d'une relative tranquillité, finalement.
Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont formés pour dire qu'il y en avait marre, que ça suffisait, que l'ambiance était devenue insupportable dans la commune. Il y a eu des tensions de voisinage, des menaces qui ont été proférées et que le maire de la Salvetat-sur-Agout, pour le moment, a toujours défendu le groupe.
Du côté de la mairie, là encore, on n'est pas très bavard. Alors, à son insu, nous avons enregistré un échange téléphonique avec le premier adjoint.
C'est la presse qui nous pose un problème. C'est pas ces gens-là, quand ils tiennent comme il faut et qu'ils font pas de prosélytisme.
Ils sont plutôt sympathiques ?
Oui, tout à fait, sympathiques, bien habillés. C'est pas des hippies. Ils ont une association de peinture sur soie où il y a des enfants du village vont prendre leur cours.
Alors, ce qu'on me dit là, c'est que visiblement, ils essayent ces derniers temps d'organiser quand même une exfiltration. Ils ont lancé une campagne de financement participatif pour s'installer en Catalogne. Donc peut-être quand même que ça devient compliqué de vivre à la Salvetat-sur-Agout. Ils sont quand même obligés de bouger régulièrement, quoi. Au bout d'un certain moment, un certain nombre d'années, ils ont fait quand même suffisamment de choses pour que ça devienne insupportable pour les gens.
Et pour en revenir à l'enquête pour assassinat, selon nos confrères du Midi Libre, pour le moment, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, la justice française n'a pas reçu de demande de collaboration des autorités belges. Merci à Nolwenn Leblévenec pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Itel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.